deuxième partie. Dans la fin de la première partie, tu parlais d'un roman court. Eh bien, on va continuer avec le dernier roman de Yin Levison, qui sort en fait dans quelques jours, mais dont j'avais trop envie de vous parler. Son titre en est « Pour service rendu » et c'est publié chez Liana Levy, comme tous les autres romans de cet auteur écossais qui vit depuis très très longtemps aux États-Unis et qui adore disséquer la société actuelle de manière magistrale en concoctant des fictions qui égratignent bien des travers et des ignominies de celle-ci. On va revenir quelques romans en arrière. Le précédent, qui s'appelle toujours d'ailleurs « Ils savent tout de vous », là, il évoquait subtilement les dérives de l'homme augmenté, les manipulations sur le cerveau qui permettent tous les pouvoirs. Avant cela, il y avait eu les tribulations d'un précaire. Il s'était servi de son expérience personnelle dans une satire féroce. Ses petits boulots successifs, ses galères étaient décrites au vitriol. La société américaine derrière, bien évidemment. Même thème, ou presque, dans son premier roman, sorti en 2003, qui s'appelait « Un petit boulot ». La galère d'un chômeur, Jake, prêt à tout pour accepter un travail et ne pas faire partie des laissés pour compte d'une Amérique de winners, de gagnants, où si tu perds un peu, tu perds tout. Bref, on a l'habitude, ce sont toujours des fables féroces, ironiques, que concocte Yin Levison, où derrière l'histoire, il y en a d'autres. Derrière le premier sens, s'en cache de plus noir, de plus caché, comme dans les milieux où il situe ses romans. Ici, donc pour service rendu, c'est à deux face à face que Yin Levison nous convie. Le premier est humain, le deuxième correspond à deux saloperies que le monde moderne américain, enfin pas que américain, a engendrées. La guerre du Vietnam et, deuxième milieu, la lutte pour le pouvoir actuel, des élections, dans un contexte d'hyperconsumérisme, de lobbying et de corruption. Soyons plus précis. Deux personnages, Fremantle et Drake, étaient tous les deux, en 1969, dans cette boucherie qu'était la guerre du Vietnam. Fremantle, d'après ce que nous raconte Levison, c'était un sergent droit, intègre. Il tente de donner un sens à la guerre, comme si cela était possible d'ailleurs. Mais à son niveau, il essaie. Il aide les jeunes recrues, il conseille, il réfléchit aux meilleures tactiques. Même si, comme il s'en souvient des années plus tard, ce qu'il n'avait pas compris à l'époque, je cite, « C'est qu'une fois que vous avez ri d'une tête tranchée, vous ne pouvez pas retourner à l'usine ou ronronner dans un bureau qu'avec tous les autres. À ce stade, vous êtes une marchandise avariée. » Et les types qui embauchaient ceux qui revenaient au pays le savaient. Sauf que Drake, l'autre rencontré au Vietnam en 69, c'est pas tout à fait le même genre. Lui, il compte se servir de cette guerre. Peut-être devenir un héros. Peut-être. En tout cas, il n'en a rien à faire des Nyakwe, rien à faire des autres. Et si ça peut commencer une carrière, après tout, il prend tout. Deuxième époque, octobre 2016. Drake a réussi, il est sénateur, il se représente. Sûr de sa réélection. N'est-il pas un vétéran de la guerre du Vietnam? N'a-t-il pas été décoré? Sauf que, il y a peut-être un peu des mensonges. Fremantle, lui, toujours intègre, apparemment, toujours honnête. Il végète comme shérif dans un petit comté du Michigan, sans aucune illusion, ni sur lui, ni sur ses congénères. Finir en beauté, peut-être, pour apporter quelque chose à sa communauté, à sa famille. Alors, quand Billy Drake lui demande de venir témoigner de sa bravoure, certes, sur un mensonge, mais sans importance, pense Fremantle, un mensonge, certes, mais ça va pas changer la face du monde. Juste si ça peut permettre à sa fille de suivre son cursus d'étudiante, si ça peut permettre à sa ville d'avoir des moyens pour lutter contre la violence qui enfle dans sa circonscription, mais aussi un mensonge, juste terminer d'achever quelques autres vétérans qui végètent aux quatre coins du pays et qui, eux, veulent simplement rétablir la vérité. Billy Drake et son équipe sont persuasifs. Arriver au pouvoir, c'est juste un Graal qui permet tout. qui excuse tout, qui efface les frontières entre le bien et le mal. Et Levinson abat les cartes par l'intermédiaire de son directeur de campagne, Levlin. Je vous lis un extrait assez carré. Perdre. L'honneur de perdre chez Devlin est un sujet d'exaltation instantanée. Il se penche sur la table, les yeux brillants, la voix plus animée que Fremantle lui a jamais entendue. Vous n'avez pas envie de perdre dans une campagne, parce que tout ce que vous faites n'aura servi à rien, absolument tout. Tous les appels pour mendier de l'argent, tous les tracts, les pins, les pancartes, les locations de voitures, l'enthousiasme, tout ça pour des clous. Vous savez ce qui est le pire? Vous faites des choses terribles. Vous divulguez des informations personnelles sur votre adversaire. Vous laissez entendre qu'il a eu des rapports sexuels avec une mineure. Ou vous montez un coup pour proposer de la drogue à un de ses enfants et pouvoir le prendre en photo en train de se faire une ligne de coke dans la semaine suivant sa sortie de désintoxication. Et vous perdez quand même. Vous perdez, putain. Si vous faites des horreurs et que vous gagnez, c'est bien. Parce que vous êtes maintenant dans le foutu gouvernement américain. Et qu'il a fallu ça pour que vous en arriviez là. Mais si vous faites des horreurs et que vous perdez, vous n'avez rien. Vous n'êtes qu'un foutu raté qui a vendu son âme pour un camion ben plein de pancartes. Voilà, assez grinçant. Et Levinson, il s'avère diabolique dans cette narration qui alterne, je l'ai dit au début, entre 1969 et 2016. Entre l'intégrité, la probité apparente de Fremantle et la rouerie, le machiavélisme avéré de Drake. En petites touches, sans jugement, avec beaucoup de subtilité, l'écrivain dévoile les dessous d'une campagne électorale aux États-Unis. Et c'est là que la fiction se révèle bien meilleure à montrer l'envers du décor et les saloperies ordinaires et quotidiennes pour accéder à un poste d'élu. Chose imaginée, connue depuis des années, on n'est quand même pas sorti ni de la dernière pluie, mais qui sont d'autant plus fortes par le biais d'un texte qui se garde bien de tout manichéisme. Jusqu'à la dernière ligne, Levinson ne fait que nous raconter des faits, sans prendre parti, sans amener une morale qui amoindrirait le propos. Et c'est tout simplement brillant, intelligent, salutaire, comme d'habitude d'ailleurs dans les romans de Ian Levinson. Donc, je rappelle le titre pour service rendu et quelque chose que j'ai oublié et qui est très important, c'est le nom de la traductrice. C'est donc traduit par Fanchita Gonzalez Battle. Voilà, Ian Levinson aux éditions Liana Levy. Patientez quelques jours, ça ne sort que début avril. Un petit peu de musique pour illustrer ses propos.
Eh ben, on était au Vietnam en partie, donc on va écouter en 69 Jimi Hendrix qui joue à Woodstock au petit matin sa propre version assez spéciale et assez irrévérencieuse, faut bien dire, de l'hymne américain. On enchaînera probablement avec un petit bout du Purple Haze parce qu'ils sont tellement intimement liés dans cet enregistrement. Donc Jimi Hendrix, Star Spangled Banner. We'll be right back.
Et voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission et je vais donc sortir un dernier livre de notre petit sac d'aujourd'hui. Et si on regarde un petit peu en arrière, ben, on a donc aujourd'hui 5 romans, tous différents les uns des autres. Et le dernier ne fait pas exception à la règle parce que même si on va se balader dans une campagne comme le premier roman dont tu as parlé de Benoît Sévrac, et oh là là, oh horreur, malheur, j'ai oublié le nom de son co-écrivain.
Hervé Jubert, pardon.
Hervé Jubert, voilà. C'est un style, un rythme totalement différent dans lequel nous emmène Cyril Héry. Cyril Héry, lui, il aime les arbres, il aime leurs troncs, leur sinuosité, leur élévation vers des cieux obscurs. Cyril Héry, il aime aussi les livres. Il est, entre autres, éditeur. Il a mis en place Écorce Édition, qui travaille maintenant à la manufacture de livres. Et voici son premier roman. Un roman qui s'appelle Scalp, et c'est aux éditions, c'est paru aux éditions du Seuil, dans la collection Cadre Noir. Quelle casure que de détruire des arbres pour donner à voir des mots. Le thème du roman est lui aussi, quelque part, une gageure. Peut-on trouver le sens de sa vie quand on a 9 ans, quand l'on vient de perdre 2 papas, enfin, 2 personnes qui tentent de nous élever, un qui est mort, un qui est parti, et que l'on essaie de rencontrer le troisième, le vrai, le biologique, au sein d'une forêt obscure. Ainsi est le destin de Hans, qui, un jour d'été, va s'enfoncer dans une nature plutôt hostile, afin de rencontrer son géniteur, qui a quitté sa mère, Teresa, avant même qu'elle ne découvre sa grossesse. Teresa l'emmène donc là où vit Alex, son ex, dans une forêt bien étrange. Dès leur arrivée, les sous-bois semblent porter des relents de mort et de malheur, des débris de charniers, un crâne de ragondin. Même les filets d'eau semblent ici à l'agonie avant que de n'atteindre l'étang, l'étang qui est le point central au milieu de cette forêt. C'est là qu'Alex, le père biologique donc, avait choisi de planter sa yourte pour son combat, la défense de la nature. Mais quand Teresa et Hans débarquent, nulle trace de vie. Ils décident donc de planter la tente et d'attendre celui-ci. Mais au fur et à mesure que Teresa tente de comprendre l'absence de son ex-amant, en se baladant, en lisant ses carnets, Hans, lui, commence à trouver un sens à sa vie. « Je respire » seront les premiers mots qu'il écrira dans un petit carnet, imitant ainsi sans le savoir Alex. Hans découvre cette forêt. Il vit aussi ce qu'il semble avoir découvert dans ses lectures. Mais les héros de romans comme Huckleberry Finn par exemple, dont il suit les pas en allant pêcher au bord de l'étang. Certes cet étang c'est pas le Mississippi, hein, mais quand même, c'est un petit peu, la scène y fait un peu penser. Donc ces personnages sont souvent sauvés, du moins aidés, par la plume de leur créateur, l'écrivain. Cyril Héry n'en a pas décidé ainsi. Et plus Hans s'éloigne de sa mère et se perd dans la forêt, et plus il se rapproche de la vilainie des humains, de leur violence et de leur cupidité. Hans finira, tout au moins passera un temps, en trouvant un refuge dans un cimetière. Attention, pas un cimetière d'êtres humains, mais de carcasses de voitures. Preuve, s'il en faut, que la nature ne semble vraiment pas de taille à lutter contre les prédateurs que nous sommes, envahis par nos déchets. Fable maléfique, conte cruel, roman noir métaphorique, roman d'apprentissage. Dans tous les cas, et le roman de Cyril Héry est tout cela à la fois, et c'est un texte court, dense et foisonneux. Cet écrivain, que l'on connaissait comme amoureux des beaux textes, il a entre autres édité Séverine Chevalier, Franck Bouys, fait vraiment une très belle entrée en écriture. Ses descriptions de la forêt sont tout à la fois poétiques, visionnaires, j'ai déjà employé ce terme mais ça correspond métaphorique. L'imaginaire, à travers les yeux de Hans, télescopant l'hyper-réel du cadastre, la nature découpés géométriquement par les vues GPS. Et ce qui est très bien décrit et très bien raconté, c'est les destins d'humains qui sont à l'avenant, les aspirations, les rêves de quelques-uns, comme Alex, Jacques, Teresa, Hans aussi quelque part, se heurtant à la réalité glauque des petits hobereaux du coin, le maire, les chasseurs, forts de leur petit pouvoir sur les autres, obtenus par la force, la corruption et puis les droits d'usage, on va dire.
Comme dans le Benoît Sevrac.
C'est cela. Face à cela, quel choix pour Hans ? À l'aube de sa vie, imiter ses semblables, enfin ceux qui semblent humains, qui semblent être humains, et s'enfoncer ainsi dans l'immense obscurité de la vie, ou alors plonger dans l'incommensurable profondeur d'une nature, loin d'être salvatrice, mais tout du moins, elle, innocente. Quoique. Donc je vous rappelle le court titre de ce très beau roman, Scalp, premier roman de Cyril Herry, paru chez Cadre Noir, aux éditions du Seuil. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, donc on vous souhaite une bonne soirée, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Et à très bientôt, au revoir.
Bonsoir.